Aujourd'hui à l'émission Parole à propos, l'interprétation du récit de la Genèse, littérale ou littéraire? Bienvenue à Parole à propos, mon nom est Pascal Deneau. À chaque époque, l'Église chrétienne a eu à faire face à des controverses doctrinales et c'est généralement grâce à ces controverses que les confessions de foi chrétiennes se sont rédigées. Et une des controverses de notre époque concerne l'interprétation des premiers chapitres de la Genèse. C'est une controverse qu'on a vu apparaître depuis l'apparition de nouvelles théories concernant l'origine de l'univers et l'origine de l'homme au 19e siècle, avec le darwinisme et toutes les théories scientifiques qui s'en suivent. Et certains interprètes de la Bible croient qu'il faut revoir notre compréhension du récit biblique de la création et de l'interpréter de manière à ne pas contredire le darwinisme. En tout cas, c'est l'impression qu'on a à voir la façon dont certains veulent interpréter la Genèse. Pour ne pas donc contredire des affirmations scientifiques qu'on reçoit comme ayant autorité en la matière. Alors, pour en parler, aujourd'hui, je reçois le pasteur Paulin Bédard de l'Église chrétienne réformée de Beauce, qui s'apprête justement à publier un livre sur le sujet. Bonjour, pasteur Bédard.
Oui, bonjour Pascal.
Vous allez bien?
Oui, ça va très bien.
Merci de votre participation à Parole à propos. La question je faisais mention en introduction, là, d'une nouvelle lecture de la Genèse. Bon, pour ceux qui connaissent le milieu théologique ou évangélique, on sont peut-être un peu plus familiers avec cela. On parle en anglais, on utilise le framework, la théorie de framework, ou on pourrait le traduire en français par la théorie cadre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la théorie cadre de la création?
Oui, alors tout d'abord, l'origine, vraisemblablement, cette théorie est apparue au début du 20e siècle et s'est développée surtout avec les travaux de Meredith Klein, qui est un théologien américain, presbytérien. Ce n'est pas lui qui est à l'origine de la théorie, de l'interprétation, mais c'est lui qui en a développé le plus, son articulation, et qu'il a fait valoir par son enseignement, par deux articles qu'il a écrits sur le sujet également. Donc, c'est surtout à partir des années 60 que cette interprétation a été davantage enseignée et proposée dans les milieux théologiques américains principalement, mais ensuite dans le reste du monde théologique dans les années 70 et 80. Donc, plusieurs autres théologiens et pasteurs ont adhéré à cette façon de comprendre la Genèse.
Pensez-vous que c'est une lecture qui est dominante aujourd'hui, que c'est la position qui est la plus répandue?
Je dirais pas nécessairement la plus répandue, non. Il y a aussi la théorie des longues périodes de temps qui est toujours assez populaire et évidemment l'interprétation littérale des jours de la création qui demeure une compréhension que l'on rencontre dans beaucoup de milieux aussi. Mais je dirais que la théorie du cadre littéraire elle devient de plus en plus populaire dans plusieurs milieux. C'est assez surprenant parce que elle a quand même été réfutée par plusieurs théologiens depuis les années 60.
Est-ce que c'est possible pour vous de nous résumer en gros, c'est quoi le contenu, c'est quoi la théorie?
Bon, alors, le cadre littéraire, c'est-à-dire les 6 jours de la création, sont présentés dans Genèse 1 comme étant des jours normaux, mais d'après cette interprétation cadre, la vue d'ensemble de l'œuvre créatrice de Dieu, qui est complétée en une semaine, ne doit pas être prise littéralement. C'est-à-dire que les jours de la création ne sont pas véritablement des jours de 24 heures, mais sont un peu comme des cadres, une métaphore littéraire qui nous présente les œuvres créatrices de Dieu dans un ordre thématique et non pas dans un ordre chronologique. C'est un peu comme si on prenait un album photo et qu'on plaçait les photos prises au cours des dernières années, non pas dans un ordre chronologique, mais dans un ordre thématique. Ce qui veut dire que ce qui est présenté comme œuvre créatrice de Dieu au jour 1, au jour 2, au jour 3, jusqu'au jour 6, eh bien, ne s'est pas produit nécessairement dans cet ordre-là, ni avec cette chronologie de jours normaux. Autrement dit, les jours de la création ne sont pas vraiment des jours, et l'ordre dans lequel Dieu a créé les choses, le monde, n'est pas l'ordre dans lequel nous lisons les six jours de la création.
Je comprends pourquoi certains voient un bénéfice dans cette interprétation, parce que c'est accommodant, ça nous permet donc de maintenir l'écriture sainte en disant ben, c'est inspiré, c'est une parole infaillible, tout en ne se laissant pas distraire par les théories scientifiques qui diraient que la Genèse est fausse, parce qu'ils disent ben finalement la Genèse n'affirme rien sur le plan scientifique, c'est un récit littéraire et c'est théologique. Mais pour que vous preniez la peine d'écrire un livre pour réfuter cette théorie, c'est parce que vous y voyez certainement un enjeu. Quel est cet enjeu selon vous? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de réfuter cette théorie? En quoi est-ce qu'elle est une menace?
Oui, absolument. Il y a un enjeu important et l'enjeu est bien sûr de comprendre le texte de la Bible correctement. Si nous commençons à voir les jours de la création d'une manière métaphorique, eh bien, il y a le danger de voir les œuvres créatrices durant ces jours de manière métaphorique également. Et bien que les théologiens qui soutiennent cette interprétation disent que tous les événements relatés dans Genèse 1 se sont réellement produits, dans la réalité, quand on examine de proche ce qu'ils disent et les conséquences de leur position, on s'aperçoit que plusieurs actes créateurs sont en réalité non pas des événements réels, mais des idées. Ça devient un grand danger parce que ce que la Bible nous dit n'est plus pris au sérieux véritablement.
D'après vous, quelle est l'influence des théories scientifiques modernes sur l'apparition de la théorie cadre? Est-ce que la théorie cadre est déterminée uniquement par des questions internes au texte biblique? Ou est-ce qu'il y a une influence d'éléments externes à l'écriture, notamment les théories scientifiques, l'évolution, le Big Bang? Donc, est-ce que ces théories-là ont influencé directement et indirectement l'apparition de cette nouvelle théorie?
Alors là, c'est une question importante aussi. Les théologiens qui soutiennent cette interprétation vont dire que les raisons qui fondent l'interprétation sont strictement bibliques et exégétiques. Et donc, les arguments qu'ils avancent sont d'ordre exégétique, c'est-à-dire qu'ils veulent examiner le texte et tirer du texte les arguments pour soutenir leur interprétation. Mais quand nous lisons attentivement, que ce soit Henri Blocher ou que ce soit Meredith Klein ou d'autres théologiens qu'on pourrait appeler cadristes ou les tenants de la théorie cadre, on s'aperçoit que les théories scientifiques modernes, sécularisées, exercent une très grande influence, un peu comme un aimant qui exerce une influence sur une boussole. Donc, sans véritablement l'admettre, on s'aperçoit que ce que les théories modernes, scientifiques modernes disent, exerce une influence importante au niveau psychologique, je pourrais dire. Et c'est ce qui les amène à développer une interprétation différente, une interprétation nouvelle qui n'a jamais été soutenue dans l'histoire de l'Église. On lit la Genèse d'une manière que aucun interprète de la Genèse n'avait lu ce texte auparavant, parce que, au fond, on veut chercher un moyen de faire une synthèse entre la théorie de l'évolution et la parole de Dieu.
Est-ce que vous pensez que les découvertes scientifiques devraient avoir une quelconque influence sur notre interprétation de la Bible, ou est-ce qu'on devrait interpréter la Bible de manière un peu hermétique?
Bien, l'interprétation de la Bible ne requiert pas de connaissances scientifiques en tant que telles, c'est-à-dire que nous devons prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle dit. Elle a une autorité en elle-même. Dieu parle et nous recevons sa parole. Maintenant, évidemment, il peut y avoir des découvertes qui nous amènent à réfléchir sur la signification de la parole de Dieu, bien sûr. Mais pour ce qui est des origines du monde, des origines de la vie, les origines de l'univers, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la science moderne ne peut pas nous faire connaître véritablement les origines du monde et de la vie parce que personne d'entre nous n'était là aux origines, au début. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait personne pour observer ce qui se passait. Et la science, par définition, est un outil qui utilise l'observation, qui utilise le laboratoire, qui utilise l'expérimentation. Il est impossible d'observer à l'œil nu ou par des instruments le tout début de l'univers. Il est impossible de mesurer ce que Dieu a fait au commencement alors que l'homme n'était pas là. Donc, c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 nous dit que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Ce qu'on voit, nous l'observons aujourd'hui, mais son origine ne vient pas de ce qui est visible, mais vient de Dieu et de sa parole. Et donc, c'est un acte de foi que nous faisons lorsque nous écoutons la parole de Dieu.
Et il faut que le moyen par lequel nous appréhendons une chose que nous connaissons soit conforme à la nature de cette chose. Or, si le monde n'a pas une origine naturelle, ce n'est pas les moyens naturels de la science moderne qui vont nous le démontrer, mais si le monde a une origine surnaturelle, ben, c'est seulement par la révélation d'une parole surnaturelle et par un moyen de même nature, nommément la foi, qu'on va pouvoir en faire la connaissance.
Voilà, oui. Et donc, il faut faire une distinction entre la science qu'on pourrait dire opérationnelle et la science historique, c'est-à-dire le développement d'ordinateurs, les moyens pour envoyer une fusée sur la Lune, les instruments médicaux dans les hôpitaux. Tout ça relève de la science opérationnelle. Nous observons, nous faisons des découvertes et le croyant n'est pas contre tout cela, au contraire. Mais lorsqu'il s'agit de la science historique, et là, on est dans un autre domaine parce que nous n'étions pas là dans le passé pour faire ces observations
Il faut reconnaître que
sur
c'est
le
une
monde.
question épistémologique aussi. C'est important que les deux côtés du débat le reconnaissent. On va devoir s'arrêter ici. Le pasteur Bédard va nous revenir dans une prochaine émission pour continuer d'élaborer donc avec nous et de nous expliquer cette théorie cadre et de nous la réfuter pour nous et de nous montrer également pourquoi est-ce que l'interprétation traditionnelle littérale, elle est satisfaisante. Mais en attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent, pasteur Bédard.
Merci, Pascal.
À bientôt.